dans notre société un peu complexe, en crise, on a tendance à aller chercher des solutions ailleurs. Et on voit, depuis un petit moment, l'effervescence de la méditation, du yoga. On essaye de prendre ce qu'il y a de meilleur dans la culture bouddhiste, mais sans trop vraiment connaître cette culture. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une femme assez extraordinaire, qui s'appelle Marion Chaigneau-Dupuis, qui à 16 ans est partie en Inde et à 18 ans est partie au Tibet. Elle a passé 22 ans dans un monastère tibétain à apprendre la culture bouddhiste. Et en plus de ça, c'est la seule européenne à avoir grimpé 3 fois l'Everest. Et si ce n'était pas suffisant, elle a aussi, avec une équipe évidemment, enlevé 10 tonnes de déchets du mont Everest. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Respire, tu es vivante ». Et avec Marion, on parle de l'occidentalisation de la culture bouddhiste. On parle d'être une femme dans un monastère. On parle aussi évidemment de son exploit, mais on parle aussi d'une chose qui pour moi est essentielle, qui est quand on monte l'Everest et qu'on est dans des conditions extrêmement dures pour sa survie, qu'est-ce qu'il devient de sa spiritualité? Est-ce qu'on arrive à maintenir ou est-ce que, comme un animal justement, on revient à des instincts plutôt grégaires? C'est une conversation hyper intéressante, je pense. Marion, elle est très profondément sincère, humaine. Moi, j'ai adoré l'enregistrer, j'ai adoré la rencontrer d'ailleurs. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour,
bonjour Marion. Greg, hein, bonjour à tous.
Comment veux-tu?
Bien, bien, bien.
On rigole parce qu'on a ça fait 3 fois qu'on réenregistre parce qu'on a des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave. Marion, t'as une vie très particulière, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense, et qui donne sans doute envie à pas mal de gens. J'aimerais d'abord peut-être comprendre comment à 18 ans on décide de partir au Tibet et comment on y reste aussi longtemps, puisque aujourd'hui t'as 40 ans, donc t'as passé
22 ans en Himalaya.
22 ans, oui, pardon, je suis nul en calcul. T'as passé 22 ans en Himalaya, donc comment on part à 18 ans et comment on y reste aussi longtemps, en fait?
Ouais, déjà, je suis partie une première fois quand j'avais 16 ans, mais j'y suis pas restée. Je suis restée le temps des vacances scolaires. J'étais entre la seconde et la première dans le système d'école française. Et je me suis retrouvée à Calcutta. J'ai découvert la vie des bidonvilles avec les maladies les plus, on va dire, terribles pour l'humain, qui est complètement déformé avec la lèpre ou avec la tuberculose ou avec des grosses tumeurs. Et j'ai découvert vraiment la souffrance, on va dire, sans aucun filtre. À ce moment-là, je retourne en Occident, en Europe, chez mes parents. Et là, en fait, le confort de la vie occidentale m'est très difficile, même s'il y a de la souffrance tout autour de moi. Mais je trouve qu'il y a une sorte de torpeur, d'endormissement, et je me retrouve plus, en fait... dans cette vie-là. Et donc, tout m'attire vers les traditions orientales pour me retrouver quelque part dans cette connexion à cette souffrance que j'ai vécue à l'état brut à Calcutta. Mais dans une recherche intérieure. C'est-à-dire que je réalise petit à petit que cette souffrance, elle n'est pas que à l'extérieur. Je la vis aussi... Dans mon corps, dans mes émotions, dans l'être voilà relationnel que je suis, et petit à petit je tombe dans la marmite des traditions spirituelles du bouddhisme tibétain en Occident avec des centres bouddhistes, et je vois beaucoup de personnes un peu à la dérive aussi qui se cherchent, qui cherchent des réponses à des questions existentielles. Et puis, la réponse que je vois dans les centres bouddhistes en Occident ne fait pas complètement écho à cette radicalité que je ressens en moi de vivre en fait l'expérience de cette souffrance, mais dans une totalité qui n'est pas simplement intellectuelle ou on va dire filtrée avec tout un apparat de culturel d'une tradition qui est exportée et j'ai envie de voir comment les gens qui vivent dans cette tradition à l'origine, enfin la source l'incarne au quotidien dans un mode de vie. Donc je décide à 18 ans de partir là-bas, en Himalaya, pour faire mes études à Darjeeling, donc à 18 ans. Et là, je suis prise dans un monastère bouddhiste pendant 4 ans pour me rendre compte vraiment de comment cette transformation intérieure, depuis ce contact avec la souffrance, dans l'ouverture et la présence entière et radicale, complète à cette souffrance, permet de la transformer en compassion et que cette transformation, en fait, est un chemin. C'est le chemin altruiste, c'est le chemin bouddhiste, c'est le chemin de la rencontre avec tous les aspects de soi-même, y compris les aspects les plus sombres et les plus cachés et les plus, on va dire, difficiles à aller rencontrer quand il faut enlever tous les filtres, en fait, toutes les constructions, les barrages que je me suis construite dans mon éducation, dans mes relations avec les autres. Et pour déconstruire tout ça, c'est un long chemin, une école qui demande beaucoup de discipline pour la déconstruction. Et le contexte d'un monastère bouddhiste dans l'Himalaya, à côté de Darjeeling, donc c'est dans les contreforts de l'Himalaya côté indien, est particulièrement propice à cette transformation. Voilà. Et après, bon, il y a tout un long parcours qui m'a fait partir du monastère du côté indien de l'Himalaya pour passer de l'autre côté, côté tibétain de l'Himalaya, donc le Tibet en Chine, où j'ai vécu là 18 ans de nouveau. Donc 4 ans à Darjeeling et 18 ans basé à Lhasa, où j'étais travailleuse sociale, acteur social pour le changement, pour l'aide aux Tibétains dans le Tibet même pendant 18 ans.
C'est incroyable parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui ont une vie comme la tienne. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, évidemment, c'est vrai que... Et c'est drôle parce que quand on s'est rencontrés, je ne sais pas comment tu l'as vécu toi, mais moi j'ai ressenti une sorte de connexion, je sais pas, c'est quasiment la première personne, on était à une conférence ensemble, et je pense que t'es l'une des premières personnes à qui j'ai parlé au final, et c'est marrant, cette connexion qu'il y a eu, enfin pour
oui,
moi.
Oui, il y a une absence de filtre et de masque qui permet en fait cette connexion directe, cette ouverture qui est immédiate.
Ouais, c'est assez fou en réalité. J'aimerais, enfin, il y a une question que je me pose quand même. Comment ta famille réagit déjà que tu partes à 16 ans à Calcutta, c'est pas hyper classique. Et après que tu décides d'aller étudier à Darjeeling, et puis que tu restes ensuite aussi longtemps, enfin, il y a cette dimension aussi quand même quelque part.
C'est vrai que la les codes culturels du bouddhisme tibétain sont tellement éloignés de la vie de ma famille dans la Dordogne profonde, plutôt agricole, que moi-même, ça m'en fait un peu perdre pied. Enfin, quels sont mes repères, quelque part, quand j'ai une famille de sang qui m'élève donc dans une connexion très forte avec le lien avec la nature et qui me donne qui me donne énormément d'amour, énormément de confiance. Je crois que le maître mot de toute l'éducation, c'était l'autonomie. Donc cette fameuse autonomie, elle s'est après manifestée dans les choix que j'ai fait d'aller vivre en Asie, dans l'Himalaya, dans un monastère bouddhiste au milieu de moines, alors que j'étais une femme, parlant une langue qui n'était pas la mienne. et qui est très éloignée en plus de mes codes culturels. Mais cette autonomie, voilà, elle est liée aussi à la confiance. C'est-à-dire que à partir du moment voilà, où mes parents ont comme vision de l'éducation une approche extrêmement ouverte et basée sur la confiance, qu'il y a un potentiel en fait chez l'enfant et chez l'adolescent et chez le jeune adulte qui cherche à se déployer ce potentiel et à s'épanouir. Donc après, ils ont joué le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas du tout sûrs que mes choix étaient les bons, ils ont laissé se dérouler le fil de ces choix et de ce voyage pour voir où ça m'a mené. Et ils ont été témoins. Il y a eu un contrat entre nous, en fait, témoins d'une transformation positive. Et ensuite, basé sur ce début de transformation, entre 16 et 18 ans, il y a eu un contrat, en fait, de confiance, tout simplement.
C'est beau parce que je sais pas si c'est si courant au final, ce contrat de
confiance. Oui, il est indispensable.
Et en même temps, ça t'a donné la force.
Pour bien établir les bases d'un projet de vie qui est aussi radical que celui de partir vivre faire des études bouddhistes dans un monastère à Darjeeling. C'est effectivement sur une base. S'il n'y a pas de base de confiance, je ne suis pas certaine que l'être puisse vraiment s'épanouir dans sa totalité.
Et tu disais tout à l'heure qu'il y avait une grosse différence entre la culture occidentale, celle dans laquelle nous sommes tous et toutes. Ce que moi je constate, c'est que beaucoup de personnes sont un peu perdues. On voit en Occident un développement hyper important de la méditation, du yoga, de toutes ces traditions qui sont plutôt des traditions bouddhistes. On voit pas mal de Bouddha un peu partout dans les magasins, chez les gens, etc., etc. Moi-même, j'ai un Bouddha chez moi. Et en même temps, je connais absolument rien de la culture bouddhiste. Toi qui, du coup, as une culture, qui a vraiment cette double approche culturelle, finalement, comment tu vois ça? C'est-à-dire, ce développement du bouddhisme, de certaines parties du bouddhisme en Occident, sachant que une personne, un thérapeute qui me disait ça, en Occident on est déjà beaucoup dans notre tête, et c'est vrai qu'en Asie ils méditent parce qu'ils sont beaucoup dans le corps, et donc ils méditent pour remonter un peu dans leur tête, alors que nous on essaye de redescendre dans le corps, nous on a besoin de redescendre dans le corps vraiment. Je serais hyper curieux de comprendre comment toi t'envisages ce bouddhisme occidentalisé, on va dire.
Oui, je vais peut-être partir de la partie la plus abstraite de notre réflexion là, sur l'approche de la tête vers le corps ou de corps vers la tête, pour aller après vers quelque chose de plus expérientiel dans mon cas, mais dans mon cas de vie personnelle. Au départ, je crois que cette problématique de faut-il partir de la tête pour aller au corps ou du corps pour aller à la tête, elle vient en fait d'une vision occidentale qui au départ en fait est erronée et qui est biaisée. C'est-à-dire que dans l'histoire culturelle et philosophique de l'Occident, cette division du corps et de l'esprit a eu lieu assez tôt. Donc, je ne vais pas revenir un peu sur toute la fabrication du millefeuille intellectuel qui a de couche en couche, en fait, à renforcer cette division. Mais je crois qu'on peut tous imaginer, en fait, si on veut bien faire cet effort intellectuel, qu'on est, en fait, en Occident divisé. Et que notre base de compréhension du monde, de nous-mêmes, de l'autre, est finalement basée sur cette séparation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette séparation du corps et l'esprit? Ça veut dire, ben oui, justement, que, par exemple, quand je suis dans un travail intellectuel, qui peut durer des heures, par exemple, pendant toute une journée de travail, je peux ne rien ressentir de mon corps. Simplement parce que, voilà, je mets toute mon attention sur ce qui se passe au niveau psychique de mes pensées et des articulations de mes pensées. Et ça, même déjà, on peut le dire avant d'arriver dans le milieu du travail, c'était vrai dans le milieu de l'éducation, à l'école. Donc, cette division, elle est à la fois philosophique et culturelle, mais elle est aussi intégrée complètement dans un mode de vie où, effectivement, voilà, le corps est beaucoup moins mis en avant que les compétences intellectuelles. Voilà, donc ça, cette division, si on la voit telle qu'elle, ça permet en fait de faire un point de départ pour se rendre compte justement que la manière dont en Occident on va comprendre le bouddhisme et le yoga et toute l'approche même spirituelle, elle va forcément être teintée de cette importance qu'on a mis au mental. Et donc, tout ce qu'on va même apprendre ou expérimenter en Occident, ce sera sur cette base. Et c'est naturel, vu que c'est
d'autres manières de voir le monde. Ouais.
C'est vrai qu'en Asie, moi, ce qui m'a appelé pour aller vivre là-bas et y rester aussi longtemps et m'y sentir vraiment comme un poisson dans l'eau pendant toutes ces années, pendant 22 ans, c'est parce que, justement, l'intégration de ces principes bouddhistes dans la vie du quotidien, dans des petits actes très ordinaires, dans le concret, on va dire dans le réel, du vivant, m'a semblé la forme de sagesse la plus aboutie. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas les principes philosophiques complexes que je pouvais lire dans les textes. C'était vraiment la manière dont l'incarnation au quotidien se déploie et donne cet enseignement en fait dans ses profondeurs les plus subtiles. Si j'arrive à m'ouvrir en fait à l'ordinaire de chacun, de la vie de chacun, et percer en fait à travers cette justement cette division du mental qui essaie de s'accaparer une sagesse ou une compréhension et d'en faire quelque chose après avec le mental pour peut-être le restituer, c'est de le redire aux autres et d'en faire quelque chose qui vient se coller à moi en fait comme une sorte de nouvelle carapace spirituelle mais qui finalement me coupe encore plus et de mon corps et des autres. Donc, quand tout ça s'effondre, parce que finalement, je me rends compte que la réalité brute de la vie ordinaire avec les personnes qui vivent, que ce soit en Himalaya ou ailleurs, après, s'il n'y a même plus de différence de contexte culturel qui porte ou pas cette appréhension du monde, ce contact avec le monde qui de toute façon il devient complètement brut, il devient sans filtre, il devient immédiat, il devient que dans le présent, il n'y a plus de mentalisation, donc peu importe après effectivement l'environnement culturel. Mais je pense que dans un premier temps, c'est quand même important de se poser la question de quel est mon environnement au quotidien de vie pour soutenir en fait ma déconstruction de intérieure de toutes ces masques, ces filtres, cette image à laquelle je me suis identifiée, parce que si je continue encore, et c'est aussi vrai parfois dans les centres spirituels d'Occident, je continue à me reconstruire de nouvelles identités aussi belles soient-elles. De toute façon, voilà, je n'arriverai pas à incarner finalement de manière directe les principes fondamentaux du bouddhisme, que ce soit de la vacuité ou de l'interdépendance ou même de la compassion. Je vais rester tout le temps en fait dans une une sorte de m'accaparer quelque chose pour m'en faire une nouvelle carapace.
C'est marrant ce que tu dis parce que je vois beaucoup de personnes, c'est marrant, moi, enfin, je lis des bouquins de développement personnel, entre guillemets, je déteste cette expression, mais depuis une dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, et à l'époque, bon, c'était pas forcément si développé, et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui, du coup, comme elles se cherchent, en lisent énormément. Mais beaucoup, je veux dire, tu vois, où elles vont regarder des vidéos sur YouTube, énormément, et je pose pas de jugement, simplement, ce que je constate, c'est juste que ça reste au niveau du cerveau, et justement, ça ne s'intègre pas. C'est-à-dire que, pour moi, des bouquins de développement personnel ou des vidéos, en fait, finalement, elles disent plus ou moins, tu vois, où elles enseignent, où elles essayent d'enseigner les mêmes choses, avec différents niveaux, bien sûr. Mais, si tu arrives déjà à intégrer, j'en sais rien, admettons les accords Toltec, et que tu les intègres vraiment, c'est-à-dire que ça redescend et que c'est quelque chose qui vibre en toi, tu n'as pas forcément besoin de lire 15 bouquins de développement personnel non plus, en fait. Et pourtant, je vois beaucoup de personnes, tu vois, qui sont dans cette accumulation intellectuelle autour d'une forme de spiritualité. Je sais pas si toi tu ressens la même chose, si tu as vu la même chose.
Oui, il y a
enfin quel regard tu as.
Il y a à la
fois
cette notion de s'accaparer des outils ou des notions d'une part dans une forme d'avidité spirituelle, et aussi le deuxième facteur aussi perturbant, c'est celui de l'accumulation. C'est-à-dire que non seulement je vais essayer d'aller à la recherche, en quête de quelque chose pour le prendre. Et en plus, je ne vais pas m'en satisfaire une fois ça, et en être contentée. Je vais aller en chercher encore une autre et encore une autre et encore une autre derrière. Et il y a toujours le new things. En plus, ça devient vraiment un marché qui vend de toutes sortes de nouveautés sur les nouveaux outils, la nouvelle approche. Même maintenant, je vois que la compassion, ça devient la nouvelle manière. Avant, c'était surtout le pleine conscience, mindfulness. Et puis après, c'est ah oui, mais en fait, il faut aussi ajouter la dimension de compassion. Donc maintenant, il y a plein de nouveaux programmes qui sont vendus en formation, en stage, etc., sur la compassion. Et puis après, ah oui, mais en fait, il faut commencer par l'autocompassion. Donc maintenant, c'est les stages sur l'autocompassion. Voilà, et je ne sais pas quel sera le new thing de 2022, mais ça, c'est continuellement en fait une course après quelque chose et de toujours en vouloir plus, toujours la quête du toujours plus. Et effectivement, je crois que ça, c'est vraiment à l'opposé de ce que justement le dépouillement et la déconstruction de la vie intérieure, on va dire, qui mène, oui, effectivement, à un contentement qui est loin de toute cette recherche, cette quête. Mon maître spirituel, Bogar Rinpoche, qui est mort en 2004, mais donc avec qui j'ai pu suivre ses enseignements de 1998 à 2004. Donc pendant 4 ans dans son monastère, puis après pendant 2 ans où j'étais partie au Tibet pour travailler sur la question des nomades au Tibet sous son initiative. Et lui disait en fait, ne va pas chercher un enseignement philosophique complexe et toutes sortes d'autres enseignements. Les simples mots que tu as compris et qui fait du sens pour toi, mets-le en pratique encore et encore et encore et encore. Donc ça, c'est vraiment un principe. Donc je commente un tout petit peu cette parole. C'est l'idée de se familiariser en fait avec une pratique qui nous fait du bien. Oui, dans ce qu'il disait, c'était aussi si un seul mot que tu as compris et qui te fait du bien, mets-le en pratique encore et encore et encore. Donc, c'est cette notion de répétition qui permet de dépouiller le mental de justement toute cette recherche, cette avidité, ce besoin de s'accaparer et d'accumuler quelque chose. Et qui l'emmène en fait à l'opposé de ça, qui l'emmène dans une forme, dans la répétition, il y a une forme d'ennui, il y a une forme de vide, il y a une forme de renoncement et qui mène petit à petit à une habituation ou une familiarisation avec, avec le peu, avec le rien, avec l'absence même de saisie et d'attachement, puisqu'il n'y a vraiment plus rien à quoi s'accrocher. Et ça, voilà, ça, c'est la notion de, je crois, de que la méditation, au sens des traditions contemplatives vraiment authentiques, qui ne cherchent pas à accumuler donc, des savoirs ou des expériences, mais qui cherchent simplement à rester avec ce qui est là, les choses telles qu'elles sont, sans rien y ajouter quoi que ce soit, sans rien y enlever quoi que ce soit, et qui arrive en fait à percer à travers toute cette quête de toujours plus, et qui voit de l'autre côté qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du mur, et en passant évidemment par le rien, en passant par parfois des images assez dramatiques de construction mentale qui essaie de faire obstacle en fait à ce contact avec le rien, avec parfois traverser ses traumatismes, parfois traverser des visions de vie, même de vie passée ou de choses qui ont été cachées ou refoulées et qui viennent essayer de remonter à la surface pour faire obstacle. Et qu'il faut arriver à traverser, en fait, pour effectivement aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, du côté de l'absence de peur, de l'absence d'attachement, d'absence de saisie, quoi que ce soit, où il y a juste la réalité brute, de l'ordinaire, de ce qui s'offre à nous à cet instant, en moment présent, qui n'est ni beau, ni laid, ni bien, ni mal. Et qui est une réalité justement qui est tellement simple et tellement accessible à chaque instant dans le moment présent qu'en fait c'est presque trop évident en fait. Et donc le mental, il comprend pas que c'était juste ça en fait. Et donc lui, il a passé tout son temps à essayer de construire des trucs et puis tout d'un coup, on lui dit « Ah ben non, en fait, tout ça n'a servi absolument à rien. C'était « you missed the point ». Donc c'est voilà, il en a les bras qui tombent et qui… Et c'est extrêmement déconcertant pour le mental. Donc ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps d'arriver à se relâcher, à se détendre dans ce nouveau mode d'être.
Une question peut-être qui peut sembler simple, tu as beaucoup parlé de compassion. C'est quoi les principaux apprentissages du bouddhisme et qu'est-ce qu'on apprend dans un monastère quand, enfin, parce que tu parlais, j'ai aussi une question sur le fait d'être une femme dans un monastère autour de moines qui sont majoritairement des hommes, mais peut-être d'abord commencer par les enseignements du bouddhisme, les grands enseignements. Enfin, tu as beaucoup parlé de la compassion, donc j'imagine que c'en est un qui est essentiel. Et qu'est-ce qu'on apprend dans un monastère?
Oui, en fait, avant d'arriver à la compassion, j'ai appris à stabiliser le mental. Donc ça, c'est la pratique de base dans toutes les traditions bouddhistes, de revenir dans le moment présent. Et à chaque prise de conscience que mon esprit a été emporté par des pensées, c'est justement en fait un retour au présent, un retour à la conscience donc, du moment présent. Et donc ça, c'est un entraînement qui peut durer des années de fondement, en fait, dans un ancrage, souvent sur la respiration ou sur la conscience du corps, pour discerner le moment où l'esprit est parti dans ses pensées, et cette fameuse division du corps aussi, de l'esprit a lieu, parce que tout d'un coup, il n'y a plus que les pensées qui m'emportent. Et donc ça c'est la base. Ensuite il y a une exploration basée sur un questionnement sur qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce qui est conscient, qu'est-ce qui perçoit, d'où viennent les pensées, et à travers toutes ces questions explorer la conscience, pour petit à petit déconstruire justement toutes les croyances fausses qu'on a sur la que j'ai sur la qui je suis et voilà, et comment je fonctionne au niveau psychique ou émotionnel. Et une fois que tout ça a été bien clarifié, donc ça c'est l'étape de la vision, on va dire, qui perçante, hein, qui perce au travers du filtre du mental, qui construit toutes ces narratives, toutes ces histoires, et qui voit la réalité brute telle qu'elle est. Et ensuite, donc ça, c'est l'aspect de sagesse, on va dire, qui est établi. Puis finalement, l'union de la stabilité avec la sagesse mène à une forme de complétude, de plénitude de l'être dans un état assez stable. Puis, quand finalement, il y a tellement d'espace et de complétude dans mon être, l'autre finalement devient, comment dire, c'est perméable, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de protéger mon territoire pour m'isoler et pour rentrer en relation avec l'autre de manière un peu, on va dire, il y a le moi, il y a l'autre. Puisque finalement, il n'y a plus tellement de différenciation, de séparation, ça devient un espace perméable et d'interaction avec l'autre. Et c'est là où la compassion peut devenir évidente et naturelle dans cette simplicité donc de non-séparation avec l'autre et d'interdépendance surtout. Où je me rends compte que si je prends soin de l'autre, en fait, ça revient vers moi de manière bénéfique. Et en fait, c'est une manière de prendre soin aussi de mes états émotionnels, relationnels. Donc, il y a cette, on va dire, perméabilité, malléabilité de l'esprit qui rend les relations beaucoup plus fluides. Et à partir donc, de cette compassion naturelle, il y a souvent en fait une mise en action de sentiments donc de résonance avec la souffrance de l'autre, qui permet d'avoir ce souhait, en fait, se démettre ce souhait de venir en aide à l'autre de manière active, puisque l'autre est aussi important que moi, son bonheur est aussi important que le mien, donc prendre soin de l'autre et me mettre en action pour soulager sa souffrance, c'est un acte qui coule de source et qui va me faire du bien, qui va faire du bien à l'autre. Donc c'est comme s'il y a un passage en fait entre la résonance avec la souffrance de l'autre jusqu'à l'action qui vient alléger ou soulager cette souffrance, voilà, sans que le mental ait beaucoup de force, là, il n'a même aucune force là-dedans. Il n'y a pas une volonté particulière d'aider l'autre ou de me mettre dans une position peut-être supérieure ou de capacité supérieure à aider l'autre. Et cette compassion naturelle, voilà, elle émerge de cette sagesse, dans la stabilité d'un mental qui est pacifié. Et généralement, les actions qui émergent de cette ouverture, de cet espace intérieur, elles portent aucune trace, en fait, d'égoïsme ou de névrose, quelle qu'elle soit. Ce qui fait qu'il n'y aura aucune conséquence, d'effet secondaire, on va dire, ou des conséquences négatives à nos actes qui émanent de la compassion. Voilà, donc ça, c'est une version assez, assez traditionnelle d'expliquer la compassion. En Occident, je vais être assez succincte, hein, mais je pense quand même il y a une petite nuance à faire. Vas-y. Sur le fait que accéder à cette compassion naturelle sans forcément avoir fait toutes les étapes de déconstruction des identités, on va dire, conditionnées de notre être, ça paraît assez difficile parce que voilà, la dimension de sagesse n'est peut-être pas aussi installée dans les traditions contemplatives occidentales que, par exemple, celle de l'Asie. Et donc, il y a tout un passage, justement, de percée de l'autre côté, en fait, de cette identification qui ne se fait pas si facilement en Occident. Et donc, il y a tout un travail thérapeutique qui est important à faire pour compenser ce manque de percée, en fait, de l'autre côté du miroir. Et ce travail thérapeutique, il a plus à voir à faire avec avec l'autocompassion. Donc, il y a tout un passage de travail, de connexion à soi, de prendre soin de son enfant intérieur, de tous ses traumatismes, de tous les mal vécus, pour que en autocompassion, il y a quelque chose qui se relâche, qui devient complètement tendre à l'intérieur de soi, et qui, dans ce relâchement et cette ouverture, permet après de ressentir cette non-séparation avec l'autre, et du coup que la compassion envers l'autre devienne aussi naturelle, mais en passant par d'abord l'autocompassion.
Donc la compassion, il y a aussi, il me semble, deux choses que tu as pu apprendre, qui sont la détermination et la transmission, ou
oui,
c'est moi qui...
la semchouk en tibétain, la semchouk c'est la détermination, la force de détermination. Ça a à voir vraiment avec une qualité plus masculine, si l'on est une. Enfin, si on dit, voilà, plutôt prendre soin, réceptivité, compassion dans les qualités féminines. La détermination et la force de détermination, ça, c'est plus des aspects de qualité, on va dire,
dans le langage occidental, en tout cas, on a tendance à séparer féminin-masculin. Donc, voilà, c'est toujours un peu compliqué
division.
Parce qu'effectivement, ça ne fait pas vraiment de sens, mais on a tendance à genrer, alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sens à genrer. Mais bon, pour l'exercice, on va le faire, parce que dans la langue française, malheureusement, on coupe comme ça. Alors, du coup, c'est compliqué de l'exprimer autrement.
Non, réaligner avec effectivement l'idée qu'on n'est pas obligé de tout diviser et de tout catégoriser et genrer. Effectivement, c'est mais voilà, pour partir dans la vision un peu plus occidentale, donc la force de détermination de Semchouk, elle est indispensable sur le chemin pour le long terme, pour justement pas papillonner d'une nouvelle méthode à une autre, de chercher toujours le nouveau livre, mais d'arriver en fait à rentrer dans une répétition qui va vraiment opérer après la transformation, donc la répétition d'une seule pratique.
Ce que tu disais tout à l'heure,
avec cette difficulté parfois d'être confronté à l'ennui. La difficulté d'être confronté à une forme de non-contrôle des résultats, sur les résultats, parce que c'est pas du tout une force du mental basée sur l'obtention de résultats par rapport à des objectifs. C'est au contraire la force de détermination de ne pas se laisser emporté par les habitudes conditionnées, justement, de s'accaparer un résultat et de les accumuler et de les montrer à tout le monde. C'est-à-dire de rester dans une forme d'assaise, de contentement de ce qui est, de l'ordinaire. Voilà, sans fabriquer quoi que ce soit là-dessus. Et cette force de dépouillement, cette force de déconstruction, Donc, il y a à l'opposé de ce que notre mental, dans l'éducation classique, nous apprend à faire. Elle est indispensable sur le long terme parce que si on ne met pas à bouillir sur le feu l'eau suffisamment longtemps, elle ne va jamais arriver à ébullition et elle ne va jamais pouvoir se dissoudre et transformer en fait ce lot en vapeur ou pour que quelque chose vraiment se disparaisse. Et c'est pour moi la 16, c'est cette force de... Donc, ouais, il y a la force de détermination. La transmission, peut-être, je n'utiliserai pas forcément ce mot.
D'accord.
C'est plutôt la force de détermination qui mène à une transformation. Voilà, sachant que la transformation, elle a son propre processus, elle prend du temps, c'est très lent, et on ne peut pas se permettre de changer tout le temps, de passer d'un outil à un autre ou d'une méthode à une autre, parce que ça, c'est encore le mental qui cherche à avoir un contrôle, en fait, sur sa transformation, et qui se dit, tiens, je vais faire un petit peu de ci, je vais faire un peu de ça, puis je passe de l'un à l'autre, etc. Il se sent un peu le maître, la tour de contrôle de ce qui lui arrive. Et là, de nouveau, bing, on est sous l'emprise d'une force qui n'est plus du tout une force innée qui émerge des profondeurs de sagesse qui est déjà en nous et qui a juste besoin d'être nettoyée, balayée pour arriver à sa pureté originelle. Mais de nouveau, on serait mis à construire des tas de choses. Voilà, donc c'est une force de nettoyage, on va dire. D'où, d'ailleurs, moi, ma grande passion pour le grand nettoyage.
Et justement, on va y revenir, parce que le grand nettoyage de l'Everest, nécessairement, on va en parler, parce que tu es la première Française, première Européenne à être montée 8 fois sur l'Everest, ce qui en soi-même, je pense qu'il faut un peu de détermination pour le faire.
3 fois.
J'imagine même pas le faire. 3 fois. Ah, je pensais que c'était 8 fois, pardon. Tu vois, mais bon, 3 fois, c'est énorme. il y a plusieurs questions qui me viennent, évidemment, pour se dire comment tu décides de faire ça, etc., mais qui sont, des questions qu'on t'a posées 1000 fois déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de se dire, quand tu te retrouves... donc, tu apprends beaucoup de principes dans un monastère autour de la compassion, de la spiritualité, etc. C'est quoi le... On appelle ça un stress test, c'est-à-dire... Quand tu testes en version nature, c'est-à-dire que t'es dans des conditions hyper difficiles où tu n'as plus d'oxygène ou beaucoup moins d'oxygène, où tu peux avoir faim, où tu peux avoir très froid. Qu'est-ce qui reste de ces enseignements et en quoi ça t'aide pour monter l'Everest 3 fois, donc, et pas 8.
Oui, c'est vrai que c'est important de remettre un peu le contexte, d'être sur la montagne notamment, donc pas que sur l'Everest, hein, parce que j'ai fait plein d'autres expéditions, mais l'expédition sur l'Everest, elle dure longtemps, elle dure au moins 40 jours. Donc 40 jours sur la montagne, en mangeant très peu, en étant à des températures négatives tout le temps, voire même jusqu'à moins 40 une partie du temps pour aller au sommet, d'avoir très peu d'oxygène. Il y a juste 30% d'oxygène quand on arrive vers le sommet de l'Everest, d'être entouré de cadavres, de ne pas avoir pris de douche pendant 40 jours et d'être aussi entouré de déchets. Donc, cette réalité brute dont je parle un peu depuis le début de notre conversation, qui est une réalité sans filtre, sans confort de justement pouvoir me raconter des histoires sur ce qui se passe. Elle est extrêmement réveillante, elle réveille une force profonde innée en fait, instinctive hein, du corps qui est dans la survie, qui est dans un contact sensoriel uniquement avec ce qui se passe, puisque de toute façon, le mental ne peut plus s'imaginer des tas de choses parce qu'il n'y a plus d'énergie, en fait, pour cette partie de l'organe du cerveau qui n'est pas un organe essentiel pour la survie. Donc, bien sûr, il l'est, mais pas certaines zones, comme notamment la zone préfrontale qui rationalise beaucoup, qui anticipe, qui analyse, qui se raconte des histoires. Cette partie-là, elle est déconnectée. Donc, en fait, il y a un rapport sensoriel à la réalité qui est donc extrêmement revivifiante pour moi, qui est bouleversante dans le sens où je reviens à un état presque animal. Et là, il y a juste une petite flamme en moi qui vibre, qui est quand même une flamme consciente, parce que j'ai cet entraînement de l'esprit dans des monastères qui m'ont permis de justement discerner le moment où je suis partie, où je suis plus dans le moment présent, et le moment où je suis dans cette conscience du présent. Et cette petite flamme, elle peut en fait être orientée dans une intention. Donc je pose une intention quand je suis dans une expédition. Par exemple, en 2017, c'est la troisième fois que j'allais au sommet de l'Everest, je m'étais posée comme intention pour faire vibrer cette petite flamme de conscience du présent, que chaque moment que je vivais là-haut allait me servir à être connectée avec les autres. Je sais que ça paraît assez étrange de dire pourquoi aller au sommet du haute montagne où finalement c'est le dépassement de soi par la survie avec vraiment ce rapport au corps direct, etc. Et tout d'un coup, de se mettre comme intention, ah bah tiens, je vais être connectée aux autres, alors qu'on peut très bien faire ça autour d'un bon feu, dans une bonne maison, avec un bon petit verre et un bon repas.
Voilà. Une raclette. Hein.
Donc ça semble vraiment paradoxal et ça l'est. Simplement, en fait, parce que j'avais besoin de ce dépouillement de toutes les. Voilà, tout ce dans quoi mon confort relationnel, l'habitude se crée dans un contexte habituel, confortable, etc. Et pour arriver, en fait, à quand je suis dans un contact brut avec la réalité, comment je peux rentrer en contact, en relation, en connexion brute avec l'autre aussi. Et quels seront les mécanismes des ressources intérieures de compassion, justement, de connexion à l'autre, qui pourront être activées? Comment je vais pouvoir activer ces leviers? Donc, par l'intention, déjà d'une part, évidemment, qui était répétée encore et encore. À chaque pas que je faisais, je me répétais mon intention. Et comment, dans les moments d'extrême difficulté, notamment, je me souviens, en bas des échelles, avant d'arriver sur le sommet de l'Everest, il y avait un groupe d'indiennes qui étaient bloquées dans les échelles parce qu'elles avaient peur de passer ce passage difficile. Et je me suis souvenue en fait de l'une d'entre elles qui m'avait raconté son histoire de vie. Elle voulait arriver au sommet de l'Everest pour aider les autres femmes de son village au fin fond de l'Inde rurale pour les aider à s'émanciper. Et tout d'un coup, en fait, quand j'étais moi-même confrontée au froid et à l'envie de renoncer parce que je ne pouvais plus rester comme ça, immobile, à attendre au pied de ces échelles. Et puis, je sentais plein d'émotions, d'impatience, de colère, etc. Et comment, dans cette tempête intérieure voilà, à la fois de survie et de difficultés émotionnelles, j'arrivais en fait à traverser à l'intérieur de moi cette cacophonie, disons, et d'arriver à un état de connexion brute à l'autre en réalisant qu'en fait son histoire et la mienne c'était la même. On avait finalement vraiment cette humanité partagée qui était notre base, notre fond commun. C'est comme une sorte de courant d'un lit, d'une rivière en fait commun qui nous traverse et qui nous emporte et qui fait dissoudre en fait toute forme de saisie, d'emprise de ma propre histoire et de mes propres besoins du moment, et qui m'a donné une chaleur intérieure bien plus grande que celle même que pouvait me donner ma bouteille d'oxygène, qui était d'ailleurs au plus bas aussi, parce qu'il fallait que je baisse mon taux d'oxygène, parce qu'il fallait que j'attende. Mais peu importe le niveau d'oxygène que j'avais dans le sang, à ce moment-là, j'avais une chaleur qui, de toute façon, était beaucoup plus lumineuse et spacieuse que celle biologique. Et quand j'ai réussi à me relier, en fait, à cette ressource de la connexion à l'autre, dans cette humanité, notre fond commun, quoi, d'humanité, et là, après, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. C'est-à-dire que quand j'ai touché à ce fond, je suis revenue complètement transformée de cette expérience, et le sommet, d'aller au sommet ou de ne pas y aller, n'avait plus aucune importance. Il n'y avait vraiment plus que cet amour, ce sentiment de connexion, et j'étais beaucoup plus nourrie intérieurement de cette expérience que de celle d'arriver au sommet. Voilà, donc ça effectivement, c'est... Mais ça ne vient pas tout seul, c'est le fruit d'abord d'une intention qui avait été posée et qui avait été moult, moult fois répétée comme un mantra. Et puis ensuite, d'oser aussi me mettre dans des situations où je perds toute base de repères de confort et d'habitude de schéma habituel, on va dire, de réaction à situation, pour me mettre vraiment face à une sorte de lieu en moi-même, hein, où il y a plus de sol, il y a plus d'endroit, il y a plus d'envers, il y a plus de centre. Et qu'est-ce qui reste dans ces moments-là? Qu'est-ce qui est activé? Quel est l'état qui s'ouvre et qui n'est pas construit et qui va devenir après la base sans référence, sans centre, sur lequel je peux me reposer encore et encore dans mes relations avec les autres à l'avenir?
C'est incroyable, parce que ça déconstruit aussi, tu sais, toute cette société performative dans laquelle on est tous un peu. Et c'est vrai que j'imagine, moi je suis pas alpiniste, mais quand on grimpe l'Everest, il y a quand même une notion de performance, tu vois. Je sais que toi, en plus tu as cette rapidité qui est liée aussi peut-être à ta détermination, enfin, tu vois, au fait que ton corps soit, soit léger, je sais pas bien, mais en tout cas, tu vas hyper vite en montagne. Donc, il y a quand même cette idée de performance. Et là, en fait, c'est tombé, finalement.
C'est vrai que je me suis bien pris les pieds dans mes propres aussi élans de prouver ma performance et de vouloir battre des records. Et j'ai bien exploré toute cette partie très glissante de mes tendances habituelles à la compétition et à vouloir justement arriver plus vite et plus de manière plus performante que les autres, et en comparant ça c'est vraiment quelque chose je pense que chacun de nous là, parce que on a grandi dans des cultures qui favorisaient cet état d'esprit, c'est vraiment important d'aller le voir dans tous les détails et de se regarder dans un miroir attentivement à ce niveau-là, parce que c'est obligé en fait qu'on ait ces schémas. On n'a pas pu passer à travers... on les a forcément construits à un moment donné.
Non, dans la culture, dans la culture occidentale, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est clair. Une autre chose, donc du coup, tu as décidé de... Alors, pas seulement de grimper l'Everest, mais aussi de le nettoyer.
Mm-hmm. Oui, le grand nettoyage. Ouais. C'est pas que intérieur, c'est aussi extérieur. Oui.
C'est ça. C'est 10 tonnes, c'est ça, de
déchets, qui étaient...
De déchets que vous avez ramassés. Ouais.
Il y avait plusieurs paliers plusieurs zones de déchets. Les déchets les plus hauts en altitude, au-dessus de 6500 mètres. Ceux-là, ils sont vraiment très compliqués à redescendre, parce qu'ils sont incrustés dans la roche, dans la glace. Il faut les redescendre à dos d'homme. Ensuite, il y a les déchets sur la plateforme à 6500 mètres, qui est le lieu où on passe le plus de temps en expédition. Et là, il y a les yaks qui peuvent aider à redescendre les sacs, mais il faut quand même arriver à remplir tous les sacs. Là, c'est là où il y avait à peu près 8 tonnes de déchets Donc, sur les 10 tonnes, c'est vraiment là où il y avait 80%. Oh, wow. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont tous redescendus au camp de base, là, il y avait aussi pas mal de déchets, mais surtout les premières années de nettoyage. Après, on arrivait à garder le camp de base vraiment propre, donc à 5000 mètres d'altitude. Et là, il y a les camions qui viennent rechercher tous les sacs. Donc là, une fois qu'ils sont acheminés après en par camion dans différents décharges, soit pour des déchets recyclables ou des déchets non recyclables. Donc ça c'est encore un peu en rodage parce que le Tibet n'est pas super bien équipé pour avoir des filières de recyclage bien, voilà. Mais on est en train de travailler sur cette question-là et il y a même un partenariat là qui est juste en ce moment en train d'être mis en place avec une entreprise TerraCycle qui produit des produits à partir des déchets, des produits en plus avec de la culture locale tibétaine, comme voilà des bracelets ou des rosaires des malas tibétains pour égrener les prières, avec des plastiques, enfin fabriqués avec des plastiques des déchets de l'Everest. Donc ça va permettre d'amener en fait d'insuffler un nouveau souffle aux pratiques bouddhistes traditionnelles du Tibet en y mettant en fait une touche d'engagement, d'un bouddhisme engagé en fait dans l'écologie, pour montrer qu'il n'y a pas que les prières qui vont nous transformer intérieurement, mais qu'il y a aussi la transformation extérieure d'être acteur dans notre environnement direct, naturel ou social, d'amener des graines de cette transformation dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, pour que ce soit vraiment complètement intégré. Parce que c'est vrai que j'ai parlé au départ du bouddhisme en Occident qui était un peu parfois déconnecté d'un mode de vie qui n'est pas trop intégré dans la culture. Mais le problème, c'est qu'en Asie, en fait, il se passe un peu la même chose parce qu'il y a une transformation tellement rapide des modes de vie dus à la modernité qu'en fait, les manières d'incarner les principes bouddhistes tels que c'était réalisé dans le passé, elles sont plus adaptées aujourd'hui. Donc il faut vraiment arriver à moderniser notre manière de vivre le bouddhisme au quotidien de manière engagée à un mode de vie moderne.
Et alors du coup, une question, parce que tu parles un peu d'activisme. Ouais. Est-ce que le fait d'être dans un monastère, en fait, je me dis, quelque part, tu appartiens à un groupe, mais en même temps, tu es aussi, j'envisage, mais peut-être à tort d'ailleurs, assez seul. Mm-hmm. D'un côté, tu es connecté à un monde, mais tu es connecté, tu es un peu déconnecté, entre guillemets, du monde classique. Est-ce que être dans un monastère, ça développe cet activisme, comment tu le ressens, toi? Est-ce que tu te sens connecté, déconnecté, pas connecté au même monde?
Oui, c'est très intéressant cette question de comment le vivre ensemble ou la vie communautaire est à la fois une ressource, un élément facilitant, on va dire, pour notre progression spirituelle, pour chacun de nous, ou bien ça peut aussi être un obstacle quand il y a quelque chose de l'ordre d'une vie en vase clos, en fait, où les choses se répètent dans une forme de système interne qui n'a plus de contact vraiment avec l'extérieur, qui n'a plus vraiment de recul sur lui-même, qui peut pas intégrer des changements ou est vraiment dans l'adaptabilité pour se réformer naturellement, en fait, en autorégulation avec son environnement extérieur, parce qu'il n'y a plus, en fait, de contact vraiment avec l'extérieur. Et c'est le cas parfois dans les traditions spirituelles, même tibétaines, où finalement le Tibet est resté un peu en vase clos. Il n'y avait pas tellement de contact avec l'extérieur. Et donc, à la fois, il y avait une force du maintien, de la préservation d'une transmission culturelle et spirituelle qui n'était pas du tout influencée ou polluée par l'extérieur. Mais d'un autre côté, il y a une fragilité du fait que ce manque d'exposition à l'extérieur n'a pas du tout préparé à vivre après cette transition, enfin ce bouleversement de la Chine qui arrive au Tibet, puis après du bouddhisme tibétain qui a été exporté dans le monde entier pour donc en fait ça a été beaucoup trop rapide. Et ce côté fulgurant, en fait, bon, c'est normal de toute façon que ça posait des tas de problèmes, mais on va dire que le Tibet n'était particulièrement pas préparé à vivre ces adaptations. Alors que quand, pour moi, une communauté saine, où qu'elle soit dans le monde, elle est capable, en fait, de rééquilibrer constamment à la fois la préservation, le maintien de sa transmission en interne, de manière, on va dire, ininterrompue et pure. Et d'un autre côté, de s'adapter continuellement aux changements et d'embrasser ces changements, plus que s'adapter même, c'est les accueillir, aller vers, les embrasser, les intégrer, en fait, de les laisser rentrer à l'intérieur et d'opérer la transformation qui doit se faire de l'intérieur avec ces changements et d'accompagner ces changements, tout en gardant ses valeurs et cette transmission. Et ça, c'est quelque chose, un équilibre qui est extrêmement subtil et difficile à réaliser parce qu'on ne peut ni s'attacher à la forme, on va dire, pure et non polluée d'une communauté qui est refermée sur elle-même et qui donc n'a aucune influence extérieure. Mmh. Et on ne peut ni s'attacher à une forme de consumérisme, on va dire, de chercher tout le temps la nouvelle chose qui va me réformer, rendre la communauté plus on the edge et sur la pointe des choses. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à rester sur un mode d'être équilibré. Et je crois aussi une des forces pour cet équilibre, c'est qu'en fait il y a une sagesse collective qui doit émerger petit à petit du fait qu'il n'y a pas une figure centrale d'un maître qui détient tout le pouvoir ou l'autorité en fait de décider sur la transformation ou les orientations de la communauté. Parce que ça, c'est trop dangereux, en fait. Il suffit qu'il y ait un maître qui, tout d'un coup, perde pied ou il tourne mal. Et du coup, toute la communauté dépend en fait de ce maître qui évolue aussi, lui, de toute façon, en tant qu'humain. Donc, s'il évolue dans une direction qui n'est pas la bonne, toute la communauté va aussi dévier. Alors que s'il y a une sagesse petit à petit qui se construit dans l'ensemble des personnes qui composent la communauté, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, je crois, qui n'existe pas vraiment ni en Asie, ni en Occident, qui va être, je pense, la grande révolution d'aujourd'hui et de demain pour ces communautés spirituelles, d'être en bonne santé, c'est d'arriver à créer cette intelligence du collectif qui donc doit avoir nettoyé toutes les forces d'intérêt personnel de chacun. Et ça, c'est extrêmement délicat comme travail et ça prend beaucoup de temps pour qu'il n'y ait pas un individu qui cherche à avoir du pouvoir sur les autres et avoir un intérêt à avoir du pouvoir. Donc, je pense qu'on en est là, voilà. On en est à cette transition. Et moi-même, je m'intéresse aujourd'hui, en Occident, à la manière de construire l'environnement favorisant ou encourageant cette sagesse, cette conscience collective.
Donc, c'est anti-gourou, quelque
part. Oui, on va dire aussi... en tout cas, je crois en la transmission des enseignements via une lignée de sagesse incarnée par des maîtres qui transmettent vraiment d'esprit à esprit cette transmission extrêmement profonde qui passe même plus par les rituels ou par les aspects culturels, mais qui passe vraiment d'esprit en esprit. Et moi-même, j'ai pu le vivre grâce à être en contact avec un grand maître de méditation qui est Bokhar Rinpoché. Et sans lui, j'aurais évidemment pas pu découvrir certains aspects de profondeur de la conscience. Par contre, arrive un moment, moi, dans mon parcours personnel, j'ai dû partir du monastère, m'éloigner de mon maître, faire le deuil de cette relation très privilégiée que j'avais avec lui, et me rendre compte petit à petit que tout ce que j'avais découvert dans le miroir dans le regard du maître, en fait, je pouvais le retrouver dans mon propre esprit. Et qu'il y a eu un transfert de retrouver ces qualités à l'intérieur de moi-même qui a été très long, très difficile. J'en ai beaucoup voulu à mon maître de justement ne plus pouvoir être à côté de lui, parce que quand je suis passée du côté indien de l'Himalaya vers le côté tibétain, donc de l'autre côté de l'Himalaya, je ne pouvais plus retourner en Inde, parce que quand j'étais au Tibet, ben, pour des raisons politiques, il n'y avait pas de passage possible entre les deux pays. Et j'étais isolée au Tibet, mon maître me manquait énormément, et puis je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas rester avec lui, et je lui en ai voulu. Et petit à petit, et pendant des années, voilà, j'ai découvert qu'en fait, la grande force de l'enseignement, justement, de transmission du bouddhisme de maître à disciple, c'est d'arriver à cette forme d'autonomie où le disciple reconnaît avec toute la gratitude la transmission que son maître lui a donnée, mais petit à petit arrive à reconnaître cette transmission, pas que dans la personne du maître physique, mais dans tous les aspects symboliques de ce qui m'entoure, comme des signes en fait qui me rappellent les qualités du maître. Et petit à petit, tout mon environnement, chaque personne que je rencontre dans ma vie, elle est aussi un rappel, un signe des qualités du maître. Et je peux voir en fait cette sagesse à travers toute chose. Mais ça, c'est un très, très, très long chemin de détachement, enfin de non-attachement au maître. Qui c'est naturel à un moment donné d'être attaché à un maître et d'avoir envie de trouver un gourou et de rester avec lui, et c'est quelque chose de très bon, hein. Simplement voilà, maintenant aujourd'hui c'est difficile de trouver des maîtres authentiques, de pouvoir rester avec eux, de pouvoir avoir une vie au quotidien pour voir comment ils se comportent aussi dans leur petits gestes ordinaires du quotidien, pour voir si c'est aligné ou pas. Donc, quand on voit les maîtres que pendant les enseignements, bah oui, on a l'impression qu'ils sont parfaits ou dans un idéal, etc. Mais on ne sait pas vraiment comment ils se comportent au quotidien. Donc, c'est difficile en plus de tester ce discernement pour savoir s'il est vraiment authentique dans tout ce qui est cohérent dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Et puis d'autre part, ben voilà, de toute façon, voilà, il y a cette difficulté de retrouver des maîtres, de pouvoir vivre avec eux, de pouvoir discerner. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a quand même une réforme qui est indispensable, je crois, d'opérer pour que les communautés spirituelles puissent vraiment rester en bonne santé. C'est de découvrir la force du groupe, la force de l'intelligence collective. Et de comprendre que ces liens d'interdépendance, ils sont réels, ils sont vivants, ils peuvent nous faire grandir. Et c'est là aussi une source de sagesse qui est peu connue encore aujourd'hui, mais qui, si on arrive à s'y ouvrir, peut devenir aussi puissante que la rencontre avec un maître. Mais voilà, je pense que pour l'instant, c'est un peu hypothétique, hein, ma vision. C'est-à-dire que si je pose l'hypothèse que si les communautés arrivent à s'ouvrir cette sagesse issue du groupe, elles découvriront vraiment une source intarissable d'enseignement et que ça résoudra tous les problèmes qu'elles peuvent se poser d'organisation interne, de justement plus d'autorité ou de pouvoir donner à une seule personne, de starifier hein, tout d'un coup un gourou ou une personne parce qu'elle a plus de connaissances que les autres, etc. Tout ça, c'est vrai que ça pose des tas de problèmes, alors, plus les abus, évidemment, après de pouvoir que certains de ces maîtres opèrent sur leurs disciples, qui peuvent aller juste très loin, et pas que des abus sexuels, mais aussi des abus psychologiques. Donc, pour arriver à contourner tous ces problèmes. Je crois d'ailleurs des communautés comme celle de Thich Nhat Hanh en France a réussi à créer cette intelligence collective pour que quand le maître s'éloigne petit à petit de son monastère, de son lieu de vie, la communauté puisse vraiment incarner toutes les qualités du maître au quotidien sans dépendre de sa présence physique.
Tu parlais de viol, c'est pas forcément quelque chose qu'on envisage quand on parle de maître tibétain, de bouddhisme, tu vois, on est forcément très loin de cet imaginaire-là. Un des éléments dont on a un tout petit peu parlé, c'est le fait d'être une femme dans un monastère. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience-là, d'être une femme dans un monastère ?
Ouais, c'est un sujet assez complexe. Je suis pas sûre d'avoir encore toute la clarté sur ce que ça implique. J'avais une vision assez insouciante de la chose pendant toutes les années, à partir de 18 ans, donc quand je suis rentrée au monastère, jusqu'à aujourd'hui même encore, où j'ai parfois encore une vision assez idéalisée, où comme on m'a enseigné au début de mon parcours qu'il y avait... Il n'y avait pas justement cette division bien, mal, féminin, masculin, de même corps, esprit, etc. Donc, dans cette forme de pensée où c'est la vérité absolue qui prédomine sur la vérité relative. Donc, la vérité absolue, elle est bien, mais elle peut aussi mener dans une forme d'extrême, où finalement je nie complètement certaines réalités de ce qui m'entoure pour rester dans une vision assez floue, assez idéalisée de voir que ce que je veux voir. Et voilà, notamment moi, donc je me suis protégée beaucoup de ce problème d'être une femme au milieu d'hommes. Et du coup, du regard qu'ils pouvaient poser sur moi et de toute la question de la sexualité, etc., que ma présence posait au sein d'eux, en niant complètement toute cette question du relatif, en étant dans cette vision absolutiste de la chose. Et donc, ça m'a protégée pendant des années, y compris d'ailleurs aussi dans le milieu de la haute montagne où... Je me considérais comme un homme. Enfin, je me suis jamais considérée vraiment comme quelqu'un avec un handicap parce que j'étais une femme, alors qu'en réalité, il y avait quand même des raisons de me sentir plutôt, discriminée. D'ailleurs, j'ai pas pu aller dans des couvents de nonnes parce que l'enseignement n'était pas du tout donné de la même manière. C'était beaucoup plus basique. Donc ça déjà c'était un handicap d'être une femme. Et ensuite donc sur la question de l'abus et des viols, en fait j'ai découvert que c'était un vaste sujet qui était bien caché. Il n'a pas lieu que sur les femmes, mais aussi sur les enfants, plutôt sur les enfants, les garçons, donc les jeunes moines. Et en fait, je me souviens que il y avait ce problème au moment même où j'étais résidente dans le monastère à côté de Darjeeling, d'abus sur un jeune homme, et que je m'étais même pas rendu compte, et que mon maître s'en était même pas rendu compte, que en fait cette vision idéalisée, c'est un peu comme le diable caché, c'est-à-dire que elle permet de nier complètement cette réalité et de vraiment se comporter comme si de rien n'était. Et je pense que c'est pas du tout typique du milieu spirituel, bouddhisme tibétain ou autre. Hein. C'est vrai partout, c'est vrai aussi dans les familles où il y a une forme de normalité se crée dans le non-dit. En fait, où c'est tellement bien caché qu'en fait, là, ça vient même pas à l'esprit que ce genre de choses arrive. Voilà, donc ça c'est un aspect vraiment très déviant donc de pédophilie qui existe aussi dans le bouddhisme tibétain. Et puis il y a aussi après le problème des maîtres qui généralement quand ils viennent en Occident. Les différences culturelles sont tellement énormes au niveau des relations hommes-femmes même qu'en fait ces maîtres tibétains ou bhoutanais sont tellement déstabilisés face à ces nouveaux codes culturels qui savent pas adopter en fait les nouveaux codes rapidement et ils se retrouvent perdus Et du coup, il y a des femmes qui se retrouvent, dans des relations amoureuses avec des maîtres tibétains, sans vraiment, en le voulant évidemment, mais en ayant, sans avoir compris que ces maîtres tibétains, en fait, sont perdus eux-mêmes dans ce nouvel environnement culturel qu'ils comprennent pas. Et donc, qu'ils n'ont pas vraiment la clarté ou le discernement pour avoir des comportements qui soient adaptés à ce moment-là. Et ça crée donc, des relations abusives, où à partir du moment où un maître a une relation avec une disciple, il y a une autorité, en fait, de l'un sur l'autre qui fait que ça ne peut pas être une relation normale et ça ne peut pas être une relation d'égal à égal. Et donc, il y a forcément un abus, même s'il n'est pas vraiment visible. Voilà, donc tout ça, c'est en train d'être mis en lumière. C'est vraiment important qu'il y ait beaucoup de transparence et des groupes de parole, toute une réflexion sur la prévention, justement, pour que ce problème-là n'empire pas dans le milieu bouddhiste tibétain. Et c'est en train d'avoir lieu, en fait. Et j'espère pouvoir y participer aussi en créant plus de groupes de parole.
Génial. Génial. Oui. Marion, ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir en quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
D'habitude, je suis très radicale dans ma pensée. Et depuis là, tout d'un coup, du fait d'être...
J'étais adoucie.
Moi, je dirais Vlan à la précipitation, à l'impatience, à... vouloir résoudre des questions rapidement sur justement comment se diriger sur ce paysage spirituel en Occident de manière, on va dire, rapide. C'est pas possible, en fait. Ça pourra se faire que de manière progressive et extrêmement lente. De la même manière que la transformation intérieure est lente, la transformation au niveau communautaire et de société, elle sera lente aussi. Et pour moi, c'est pas du tout un frein à l'activisme. C'est plutôt, je dirais, l'activisme au sens de vouloir réformer nos sociétés rapidement. Tout ça, oui, il y a un besoin urgent de réintroduire une spiritualité saine et sans cette question du pouvoir, justement, de l'autorité spirituelle sur un groupe. Mais voilà, et ça se fera que dans la douceur, dans la lenteur, dans l'accueil et l'acceptation de tout ce qui empêche justement cette transformation de se faire. Si elle se fait pas rapidement, c'est parce qu'il y a plein de choses qui l'en empêchent. C'est pas que parce que là, l'envie, elle est là. Hein. Donc c'est plutôt en fait de reconnaître que ce que l'on cherche, cette spiritualité, en fait, c'est déjà là. Et il ne faut pas chercher plutôt cette spiritualité, mais plutôt de débusquer en nous tous les obstacles, en fait, à vivre profondément cette spiritualité. Parce que c'est dans cette ombre que l'on va découvrir l'accès, en fait, au chemin de la lumière.
Super. Et je retiens un mot qui est l'autonomie, donc que tu as utilisé assez souvent et qui touche aussi, je pense, qui est hyper, hyper important. Merci, merci beaucoup, Marion.
Merci, Greg.
C'était très, très, très profond et hyper, hyper intéressant.
Merci à tous.
Merci.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !